Tout de suite, c'est le nouveau rendez-vous du lundi avec le rituel de sa bande-annonce pour en savoir un peu plus sur ce qui va se passer cette semaine. Une bande-annonce 100% énervée et on ouvre d'abord la télévision avec 70 ans de JT. C'est au programme demain.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir.
Messieurs, bonsoir.
Madame, monsieur, bonsoir.
Madame, monsieur, bonsoir.
Bonjour, je m'appelle Yves.
Alors, il s'appelle comment ce bébé?
Christian, c'est bien. À ce moment-là, il y a Rodolphe aussi.
Kojak, c'est bien Kojak.
Adèle.
Quoi Adèle?
Bah Adèle.
Vous allez adorer Yves. Yves est un frigo.
Une star!
And the winner.
What do you want from me?
Yves.
C'est trop stylé.
You understand nothing.
Christopher Walken.
Show you what you are.
Veuillez-vous, monsieur. Je viens vous chercher pour votre soin.
Ce que je voudrais produire, c'est des films érotiques pour les femmes. Où l'on verrait des hommes à poil.
Des couilles, t'as, c'est pareil.
Ça, ça, ma femme m'a demandé pour la bite. Ouais.
Hey, moi, j'ai pas le temps que tu me fasses perdre mon temps.
Je dis simplement que sur le contrôle de l'aéroport de Paris, c'est l'État qui gardera le dernier mot.
Sento la morte. E qui. No! Noi!
Et oui, Lord Esperanza en live et en rap demain avec à ses côtés Benoît Forgeard pour une histoire de frigo superstar. Vous avez pu entendre des cris en italien pour saluer Dario Argento en personne, ce sera jeudi. Il y aura aussi Guillaume Niclou qui a filmé Depardieu et Houellebecq qui parle de sa bite. Un peu de film de fesses mercredi dans le Énervé la suite à l'aéroport de Paris. C'est ce soir, mais tout de suite, on a rendez-vous avec nos deux invités. Christopher Walken, de passage à Paris, et Grégory Montel, de passage en série.
Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Eh bien, bonsoir, nous sommes le Énervé, nous sommes le lundi 24 juin, nous sommes tout et n'importe quoi. Bienvenue à toutes et à tous, je ne sais pas quelle heure il est pour vous, mais vous avez le choix de nous écouter dès 18h en premium sur franceinter.fr et en podcast, ou bien alors attendre 22h minuit à l'antenne, comme tout le monde, pour les plus patients. Ce soir, on reçoit un indépendant, un monstre de cinéma, un acteur méchant, mais ça lui va bien. Christopher Walken est de passage à Paris pour le Champs-Élysées Film Festival. On est allé à sa rencontre, on a parlé Elvis, tableau, de cuisine et de cinéma, bien sûr. Avec nous en studio, Grégory Montel, star de série. Après 10%, il crève le petit écran dans Le Grand Bazar et Bingo, prix d'interprétation à Sérimania pour son rôle de père à la tête d'une famille bien recomposée. Des enfants, premier mariage, un bébé qu'il fait naître, logique, puisque vous êtes sage-femme. Grégory Montel, bonsoir.
Bonsoir Laurent.
Et dans le Énervé la suite ce soir, aéroport de Paris. On s'envole, Christophe Bourseillet.
Ouais, c'est ça, c'est un décollage en série. Alors vous savez, Proudhon a dit « la propriété c'est le vol ». Verlaine avec humour a dit « la propreté c'est le viol ». Et moi je dis « la privatisation c'est du vol ».
Point d'interrogation,
bien sûr. Alors pour en parler, il y aura Coralie Delhomme qui est blogueuse, sachez-le, et qui est par ailleurs auteur d'une pétition non à la privatisation d'aéroport de Paris. Bon, il y aura également Boris Vallot qui est député socialiste des Landes. Lui, il a carrément déposé, enfin il a participé, il porte un projet de référendum d'initiative partagée sur ce sujet. Il y aura Dominique Seux qui est directeur délégué de la rédaction des Échos. Il y a du beau monde, hein, il y a du beau monde. Et puis il y aura Thibault Langsade, chef d'entreprise.
C'est parfait. À tout à l'heure. Le NRV, c'est parti.
France Inter. Le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard.
Direction les Champs-Élysées sur le rooftop du Publicis parce que c'est le lieu de rendez-vous du Champs-Élysées Film Festival qui fête depuis 8 éditions le cinéma indépendant français et américain. Alors au programme, une compétition avec 12 longs métrages, 16 courts métrages de tous les genres, comédie dramatique, suspense, que des films en avant-première qui saluent la vitalité d'un secteur qu'on sait toujours un peu menacé. Eh bien nous, on a rendez-vous avec un invité d'honneur qui tenait sa masterclass vendredi dernier, avec l'acteur le plus indépendant qui soit et à tous les niveaux, Christopher Walken, un monstre sacré, oscarisé pour Voyage au bout de l'enfer, l'acteur fétiche d'Abel Ferrara, de Tarantino, je pourrais aussi citer Annie Hall. Mais on va parler de théâtre d'abord. Parce que quand j'arrive, Christopher Walken est en grande discussion, très animé avec Michel Zlotowski qui va assurer la traduction. Et de quoi parle-t-il ? D'Elvis Presley. Et ça me rappelle que Walken a écrit et joué une pièce de théâtre sur Elvis qui serait toujours vivant, obèse, avec des seins, alors j'embraye, et Christopher Walken se souvient.
Yes, I think 1990.
Ouais, I wrote, en 1990,
I wrote,
j'ai écrit
a play for the public theater,
une pièce de théâtre pour les théâtres publics
about, Elvis and
sur
tabloid Elvis Presley stories about Elvis.
Et une histoire de presse populaire au sujet de, qui traînait dans les presses populaires au sujet d'Elvis.
About how his death was faked.
Comme quoi sa mort and, était fausse, c'était une fausse nouvelle, c'était un fake.
That he was still, alive and,
il était toujours vivant.
Living with his, you know, he had a twin brother who died.
Vous savez, il avait
birth.
Un frère jumeau qui est mort à la naissance.
It's interesting to think that there were two Elvises.
Et donc, c'est intéressant de penser qu'il y avait deux Elvis.
So I wrote the play and I
donc,
played
j'ai écrit cette pièce et moi, je devais jouer Elvis.
It was good, usually on Saturday night.
Et ça passait le samedi soir. Lorsque le public avait un petit verre dans le nez déjà.
Mais vous jouiez un Elvis de quel âge ? Le Elvis bedonnant avec des seins ou le Elvis dans toute sa splendeur ?
Et dans la pièce,
he had a sex change.
Il était un transsexuel.
So I was, at the end of it, I was a woman.
Et à la fin de la pièce, moi j'étais une femme.
The play was bizarre.
Disons que la pièce était un peu bizarre.
Bon, on va parler un peu de cinéma indépendant français et américain. Une question, bien sûr, Christopher Walken. Si je vous dis cinéma français, vous pensez à un acteur, à un réalisateur, une réalisatrice, à un film. Cinéma français, ça vous dit quoi pour vous ?
Oh, absolutely. When I was growing up.
Bah, quand je grandissais,
the big influences in movies,
les grandes influences au
were
cinéma,
the French and the Italian
c'était le cinéma français, le cinéma italien.
So you know you had,
eh bien, il y avait
Mastroianni,
Belmondo,
those movies, Fellini,
et les films de Fellini,
Truffaut,
and
later, of course, one of my
et
first
plus tard,
movies, I was.
Un de mes premiers films, j'avais une trentaine d'années, c'était avec Isabelle Huppert. Elle avait 20 ans. Elle avait déjà fait des dizaines de films. Elle était très jeune. Et nous étions amis. J'ai travaillé avec elle.
Et
maintenant, bien sûr,
Depardieu.
Les films de Depardieu.
So in my life, French movies
have, et donc dans ma vie, les films, le cinéma français a été très important.
Oui, avec Isabelle Huppert, c'était Les Portes du Paradis de Michael Cimino.
Yes, I met Isabelle in Paris.
Oui, j'ai rencontré Isabelle à Paris.
Before we made Heaven's Gate.
Avant de faire
so
Les
that
du
must
Paradis.
Have been 1978.
Donc ça devait être en 1978.
And then we went to Montana for 8 months.
Et puis on est parti pour le Montana pour 8 mois.
Vous avez été approché par des réalisateurs français?
I have not worked in Europe.
J'ai pas travaillé très souvent en Europe.
Alors, on parle là du cinéma indépendant américain ou français. Ça veut dire quoi pour vous, Christopher Walken? Parce que je sais que vous allez faire une masterclass, alors peut-être que vous avez réfléchi sur le problème. Ça veut dire quoi cinéma aujourd'hui, au moment où le cinéma se fait court-circuiter par les séries télévisées, où Netflix fait changer les règles du jeu?
Yes, well, of course, television and movies made for television.
La télévision et les films faits pour le cinéma, pour la télévision,
are much more important than
sont beaucoup plus importants.
Than they were.
Qu'ils ne l'étaient précédemment.
The so-called independent movie.
Les films dits indépendants.
Usually means simply that.
Signifie simplement que.
That
d'ordinaire.
It doesn't cost as much.
Qu'ils ne sont pas tellement coûteux que les autres.
And of course, sometimes they're made very quickly.
Parfois, ils sont réalisés très rapidement.
And I've made a lot of those, particularly since I.
J'en ai fait beaucoup.
I live in New York.
Puisque j'habite à New York.
Which for a long time was
l'endroit
I guess the
pendant longtemps
a été
l'épicentre du cinéma indépendant aux États-Unis.
Vous avez choisi New York contre Los Angeles ?
Non, I was born in New York.
Ben non, je suis né à New York, c'est tout.
Juste une question par rapport au fait que vous allez donc mener une masterclass le 21 juin. C'est un exercice que vous pratiquez souvent et que vous aimez ?
A masterclass, no.
Des masterclass, non.
And for me, a masterclass.
Pour moi, une masterclass.
Is answering questions.
C'est répondre à des questions.
Ah bon, parfait.
You know, I don't go in and.
Vous savez, je rentre pas dans la salle et je dis.
Look, here's how you do.
Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire.
Al Pacino le fait.
I don't know.
Ben, je sais pas.
Oh non.
Vous répondez à des questions. Parfait. Moi, j'en ai plein, alors ça tombe bien.
I answer questions.
Ouais, je réponds aux questions.
Many times, the questions.
Souvent, les questions. How much money do you make? Combien tu gagnes?
Or what's Woody Allen like?
Et à quoi ressemble ou comment est Woody Allen?
Vous voulez que je vous pose ça? Vous voulez que je vous demande à quoi ressemble Woody Allen? Non.
It doesn't matter.
Peu importe.
Vous pouvez répondre.
Ben, je réponds aux questions.
Ok. Oh, ben alors, tiens, une question. Je n'y avais pas pensé. Il ressemble à quoi, alors, Abel Ferrara?
Abel Ferrara, well, I love him. You know.
Ben, ouais. Abel Ferrara, moi, je l'aime.
I made many movies.
J'ai fait beaucoup de films avec lui. C'est mon ami le plus ancien.
I don't see him so much anymore.
Je ne le vois plus tellement parce que.
I think he lives in Rome.
Je pense qu'il vit à Rome.
But when he, you know, he's from New York.
Mais lui, il est de New York. Il a vécu à New York.
And when we were young,
et lorsque nous étions jeunes, on se voyait tout le temps.
C'est lui qui vous a donné le plus beau rôle de méchant.
Well, yes, he gave me many good parts.
Ah, non, il m'a donné beaucoup de rôles très intéressants.
I love to work with him.
J'aimais travailler avec lui.
Pourquoi?
Well, he has such an interesting and free way of.
Il a une façon tellement intéressante et libre.
When he shoots, you know, it's almost.
Le cinéma, quand il filme.
He doesn't stop shooting.
Il n'arrête pas de filmer.
You know, there is no beginning and
no ending. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin.
You know, they say the enemy of movie
acting. Ils disent que l'ennemi du jeu
and cut.
Cinématographique, ce sont les mots action et fin.
In fact, in good movie acting.
Et
it doesn't
dans
begin
le bon
and it doesn't end.
Cinéma, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin.
He knows how to do that.
Et lui, il sait comment le faire.
And he made a wonderful movie.
Et il a fait un film extraordinaire avec Depardieu.
I don't know if you saw it.
Je ne sais pas si vous l'avez vu.
It's called Something in New York.
C'est quelque chose avec New York, non?
A marvelous movie.
Un film sur les modèles, sur les
mannequins.
Les mannequins.
Enfin, avec des mannequins. Christopher Walken, vous êtes un acteur comblé, on va pas le répéter, on va pas faire toute votre carrière, oscarisé avec des films devenus des classiques, La Porte du Paradis, The King of New York, Voyage au bout de l'enfer, j'en passe, mais je me souviens de vous. Moi, surtout, ce qui m'avait attrapé, c'est le fait que vous aviez dansé, je me souviens des claquettes. Il y avait même un striptease dans Tout l'or du monde. Yeah. On vous voyait aussi danser dans le clip de Spike Jones. Je sais que vous avez commencé comme danseur sur scène. Yes. Ça voulait dire qu'au départ, le cinéma, ce n'était pas dans vos plans ?
Exactly.
Tout à fait.
I was a dancer.
J'étais danseur.
In musicals in America.
Dans comédies musicales.
Broadway and.
Aux États-Unis, sur Broadway.
Touring companies.
Et on faisait des tournées.
And I did
à travers le pays.
In my early 30s.
Jusqu'au début de mes années 30, disons.
And dancers are like athletes.
Vous savez, les danseurs, c'est comme des athlètes.
You know, sooner or later, they
tôt ou tard, ils doivent s'arrêter.
So I was very lucky to.
Et j'ai eu beaucoup de chance.
Accidentally get a job.
Par accident, d'avoir un emploi
as an actor.
Au cinéma en tant qu'acteur.
And then I became. Doing plays.
Et puis j'ai joué dans des pièces de
théâtre. And then I got a movie.
Et puis un film.
And that's how I'm an accidental actor.
Et moi je suis donc un acteur par accident.
Et c'est bien d'être un acteur par accident.
Oh yes, I'm very lucky.
Ah oui, j'ai beaucoup de chance.
I would be a retired dancer.
Sans ça, je serais un danseur à la retraite.
Et comment s'est née cette passion pour la scène, pour la danse, alors même que vous ne venez pas d'une famille d'artistes.
Ma mère
was infatuated.
Elle était vraiment
movies,
une enthousiaste des films du cinéma, des pièces de théâtre, des comédies musicales.
And she had three sons.
Elle avait trois fils.
And she put them all into show business.
Et elle les a tous mis dans le show
when
business.
We were little children.
Quand on était de très jeunes enfants.
So I did that from the time I was seven.
J'ai commencé quand j'avais 7 ans.
That's how if it wasn't for my mother, I would not be.
N'était-ce pour ma mère, je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui.
Et vos frères ont fait carrière dans le show business?
No, they went.
Non.
I have a brother who's a.
J'ai un frère.
He's a minister.
Qui est prêtre.
I have another brother who's.
Et un autre frère.
He's an outdoorsman.
C'est quelqu'un qui vit aller à la campagne.
He likes to be in the woods.
Il aime être dans les forêts, dans les bois.
Rien à voir avec le cinéma.
Nothing.
Rien à voir, non.
Vous vous appelez Ronald, c'est votre vrai prénom.
Ronald.
Ouais. Pourquoi fallait-il changer en Christopher?
Well, my mother was, as I say, infatuated.
Ma mère, comme je l'ai dit,
she had a crush on Ronald Coleman.
Des arts, du spectacle. Elle, vraiment, elle adorait un acteur qui s'appelait Ronald, qui se prénommait Ronald.
So I'm Ronald.
Donc c'est pour ça que j'ai pris ce nom, Ronald.
Mais pourquoi avoir choisi le nom de Christopher?
Oh, Christopher.
Ouais.
Christopher.
I was dancing in a
nightclub. Moi, je dansais dans un nightclub.
With a Belgian chanteuse,
avec une chanteuse belge
named Monique Van Voren,
qui s'appelait Monique Van Voren.
And she had three boys dancing in back of her.
Et voilà, elle était accompagnée de trois boys qui dansaient avec elle.
And she would introduce us at the
Et
end
nous
of her act.
Elle présentait à la fin de son
and
de sa
night,
présentation.
She said to me,
Et
you know,
un jour elle m'a dit,
I don't like Ronald.
J'aime pas le prénom Ronald.
She said, I want you to be Christopher.
Je voudrais que tu t'appelles Christopher.
So I said, okay.
Je dis d'accord.
Then I was Christopher.
Eh ben voilà, je suis devenu Christopher.
Beaucoup de rôles de méchants, on le sait, dans votre carrière. Bon, pour moi, le top, c'est celui de The King of New York de Ferrara. Qu'est-ce qui vous faisait accepter un film? Et qu'est-ce qui vous fait accepter un film? C'est quoi? C'est le script, le rôle, le metteur en scène?
Well, you know,
l'argent.
Sure.
Bien sûr.
All of these things.
Toutes ces choses-là.
But mostly.
Mais principalement.
Because I don't have anything else to do.
Parce que j'ai rien d'autre à faire.
I have no children.
J'ai pas d'enfants.
I have no hobbies.
J'ai pas de violon dingre.
I don't really like to travel.
J'aime pas vraiment voyager.
So I like to go
Et
to
donc,
work.
Et donc j'aime bien aller travailler.
Vous êtes arrivé au cinéma à un moment charnière, c'est-à-dire que la décennie avant que vous arriviez, c'était du cinéma de studio, qui se faisait en studio, et quand vous arrivez, ça a changé, en fait. Vous auriez aimé être alors un acteur de studio, avec des horaires?
That's correct.
C'est exact.
I think that if I had been born,
je crois que si j'avais été né,
if I had been born maybe 20, 30 years,
disons 20, ou 30 ans plus tôt,
and I was an actor. I would
et si
like
j'avais
to
été acteur, j'aurais beaucoup aimé travailler dans les studios.
You know, I read a lot of books about Hollywood.
Vous savez, je lis beaucoup de livres au
and,
sujet de Hollywood.
You read the biographies of actors.
Quand on lit les biographies des acteurs,
the actors who were not so famous,
il y a des acteurs qui n'étaient pas très célèbres, ce qu'on appelle les seconds rôles. On les voit tout le temps
in the Bogart movies,
dans les films de Bogart, dans tous ces films des studios.
All of these, you see them, and that's.
On les voit.
You know, people, the very famous ones like Peter Lorre.
Les très célèbres, c'est comme Peter Lorre, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas aussi célèbres que lui.
Very nice life.
Mais ils ont eu une vie excellente.
They would make their filmography would be.
Leur filmographie.
300-400 movies that they made in their lifetime. 300-400
films qu'ils ont tournés dans leur vie.
Sometimes they would be
three
different movies in one week.
Sur trois films différents dans une semaine. Ils passaient d'un plateau à l'autre. Ils avaient des familles, ils avaient des maisons. Ils rentraient chez eux le soir pour dîner.
Ils
allaient le matin au travail, ils garaient leur voiture, ils allaient au boulot. Et à 18h, ils rentraient chez eux. Ils avaient des vacances.
in the, you know, California, the sun is shining.
Californie, le soleil brille.
The beach.
Il y a la mer, la plage.
A fantastic life.
Une vie fabuleuse.
C'est vraiment la vie que vous auriez aimée. Mais alors, il y a un prix qui se paye, c'est-à-dire on n'est pas en tête d'affiche.
Oh, that's okay.
Ah, ça, ça me va.
That's okay.
Ça me va.
They had a very nice life.
Ils ont eu une très belle vie, je pense.
Vous avez eu un plan de carrière? Est-ce que vous êtes le type d'acteur qui va chercher les rôles, qui contacte les metteurs en scène? Puisque vous parliez d'Isabelle Huppert qui fait ça ici en France.
No, I had no plan.
Non, non, je n'avais pas de plan de carrière.
I think I have no talent for, je crois que making opportunity.
J'ai aucun talent pour créer des occasions.
But I have very good talent.
Mais j'ai un excellent talent
for taking opportunity.
Pour saisir les occasions.
I'm brave about.
Je suis courageux.
Opportunity, but I have no imagination.
Mais j'ai aucune imagination.
Quand même une imagination pour les gens étranges. On va finir l'entretien comme on l'a commencé. Vous aviez écrit une pièce de théâtre sur Elvis Presley. Et je sais que vous avez aussi écrit des scénarios, plusieurs. Beaucoup d'acteurs écrivent des scénarios, ou alors ils se mettent à peindre. Vous, c'était des scénarios. Et vous avez écrit un scénario sur John Holmes, qui est une star du porno, on va dire, surmembrée.
Ouais,
you know,
oui, je l'ai fait.
Elvis Presley.
Vous savez, le truc sur Elvis Presley. Moi, j'aime bien faire la cuisine.
Ah ben, vous voyez que vous avez des hobbies.
Well, that's not a hobby.
Ah, c'est pas un violon dingue. Moi, je les mange.
I like to cook and I also like to shop.
Cuisiner. J'aime bien
faire
les courses pour acheter ma nourriture. J'aime bien choisir mes légumes.
Regardez
ci, regardez ça.
And I would stand in line.
Et je suis dans une file. Et aux États-Unis,
when you go to pay for your food,
quand vous allez payer pour ce que vous achetez,
tabloids.
Il y a des tabloïds, vous savez, ces journaux bon marché.
Papers that they want you to buy them. And I would always buy some.
Et moi, j'en achète toujours.
And they were always about.
Et
you know,
ils racontaient toujours ces journaux.
UFOs or
des histoires sur les soucoupes volantes ou Elvis qui n'était pas mort.
So I got a whole bunch.
Donc
of
moi j'ai tout un paquet de ces
and
journaux
put them
et je les rassemble et j'ai écrit une pièce de théâtre.
So I'm not really a playwright.
Donc je suis pas vraiment un auteur dramatique.
I got a lot of tabloids and
j'ai beaucoup de tabloïds donc beaucoup de ces journaux.
And the same with John Holmes.
Et c'est la même chose. Dans le cas de John Holmes, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites à son sujet. Je les ai rassemblées. J'ai mis tout ça ensemble. Bon, voilà, c'était un scénario.
Vous auriez joué John Holmes?
Non.
Et dernière question, parce que je sais que le temps nous est compté. Puisque vous êtes un cuisinier, vous m'invitez à dîner, qu'est-ce que vous me faites comme plat? Votre spécialité, c'est quoi? Christopher Walken.
I'm a good cook.
Je suis bon cuisinier.
But very simple.
Mais très très simple. Je fais des choses simples.
I think when you do it many times, you
quand
make mistakes.
Plusieurs fois, à plusieurs reprises.
By now,
on fait des
I
erreurs.
Make very good chicken.
Donc là, pour l'instant, je fais des excellents poulets.
It's difficult to cook fish.
C'est difficile de
Because
cuire du poisson.
It has so much to do with time.
Parce que c'est vraiment une question de temps,
so, after all these
de minutage.
Years,
donc après
I
toutes ces années,
timing, I make good
j'ai
fish.
Le, je sais. Quel est le bon temps de cuisson?
Simple,
je fais du bon poisson. C'est très simple.
Timing.
Mais tout est une question de timing.
Et ben alors, va pour le poulet. Merci Christopher Walken. Merci beaucoup. Christopher Walken était l'invité du Champs-Élysées Festival 8e édition. Ça se termine demain avec en soirée de clôture au Théâtre Marigny à Paris, Les Faussaires de Manhattan de Marielle Heller. Merci à toute l'équipe du festival qui a rendu possible ce rendez-vous. Tout de suite, eh bien, on écoute cet Elvis dont on aura beaucoup parlé avec Christopher Walken. Can't help falling in love. On ne saurait mieux dire dans le NRV.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you?
a river flows surely to the sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. For
Helping Fall in Love du King Elvis Presley dans le NRV, bien sûr.
Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Voilà, il est né.
Qui ?
Eh ben le bébé, celui de Samia et de moi, voilà, il est né.
Ah oui, celui-là, oui.
Celui-là, voilà. Il s'appelle Zachary.
Et il est normal ? Non, non, mais parce que parfois les prémas, ça peut...
Il n'est pas préma, il a juste une semaine d'avance, et tu le sais très bien, Marie.
Bon, de toute façon, faut pas trop que tu tardes, hein, parce que les filles, elles ont école demain.
Oui. D'ailleurs, avec la naissance du bébé...
Quel bébé ?
Sur France Inter.
Ah oui, oui, pardon, celui-là, oui.
Et celui-là, ce bébé, c'est vous qui l'avez mis au monde, Grégory Montel, car vous êtes sage-femme dans Le Grand Bazar. C'est la nouvelle série sur M6, elle est signée Baya Kasmi. Ça commence demain, après 10%, vous enchaînez. Ça y est, Grégory Montel, vous êtes la nouvelle star des séries télé, avec même un prix cette fois à Sérimania.
Ah bah alors là, d'une, je vous remercie. Merci oui, Laurent.
J'espère.
Mais je ne le souhaite pas. Je ne souhaite pas. D'abord, je tiens beaucoup à mon anonymat. Oui. Je vais essayer de le préserver un maximum. Non, vous savez, moi, je suis pas un immense fan de télé. Je dois le dire d'abord. J'adore les séries américaines, mais j'ai une chance inouïe, c'est qu'on m'a proposé. Enfin, non, j'ai casté pour une série qui s'appelait 10% et on m'a casté également.
On vous a casté aussi pour.
Oui, alors on m'a casté.
Pour Le Grand Bazar.
Oui.
Un petit casting,
mais enfin, c'était un essai, quoi. Enfin,
oui, bah.
Il fallait pas que je me plante, quoi. Et si moi j'ai souhaité retourner dans une série, c'est parce que j'ai lu une série qui était tout aussi moderne et tout aussi engagée, tout aussi finement politique et drôle que la première que je vous ai citée. Voilà.
Vous avez hésité quand même, un petit peu ? Vous vous êtes dit, allez, ça y est, je rempile, je vais avoir cette casquette star de série télé ?
Bah oui, alors après le mot star, je
vois pas. Non, en tout cas, oui, vedette de série télé.
Non, mais voilà, cette idée-là. J'ai hésité. Et puis quand j'ai rencontré Baya, j'ai plus hésité longtemps parce que puis j'avais adoré son film. Voilà, j'adore le.
Lequel ? Il y en a plein.
Ben, celui que Baya n'en a réalisé
qu'un seul. Oui, sinon, il y a quelques signes avec Michel Leclerc.
Quelques signes avec Michel. Bah moi, les films avec Michel, évidemment, je les ai adorés.
Ouais.
Oui. Et comme je suis un grand fan d'une actrice qui s'appelle Vima Laponce, j'ai foncé aussi. J'avais vu le film de Baya qui s'appelle Je suis à vous tout de suite et qui est d'une douceur, qui est d'une finesse, qui est d'un charme inoubliable.
Vous avez demandé un avis à votre agent pour justement remplir dans une série. C'est
oui.
Qui votre agent aujourd'hui ?
Aujourd'hui, mon agent, c'est une jeune femme qui s'appelle Élise Fécamp, qui est une d'une agent formidable avec qui je travaille très très bien, en bonne entente, avec beaucoup de simplicité. C'est une fille de boulanger normand, et donc ça me rassure beaucoup.
Je peux imaginer. Vous avez demandé aussi à Dominique Besnéard, qui a été votre agent. Il a été votre agent, non?
Alors, il a été, comment dirais-je, il a dû être mon agent pendant 15 jours. En fait, c'est lui, c'est lui qui m'a fait rentrer chez Armédia, parce qu'il m'avait vu jouer au théâtre et qu'on en a discuté ensemble. Et quelques mois après, il cessait son activité d'agent. Et il allait devenir producteur.
Ça tombe bien, il vous a repris quelques années plus tard. Alors,
surcasting.
Le grand bazar, oui. Vous tenez à cette idée de surcasting?
Ah ben parce que je trouve que c'est bien de... L'idée de passer des essais, c'est extrêmement important. Parce que c'est comme ça qu'on crée des duos. Je pense que toutes ces séries qui fonctionnent, dont la nôtre, la série de Baya, c'est parce qu'on a passé des essais, qu'on a vu, on a testé les duos, que ça marche ensuite.
Pour savoir si le père et la mère, ça marche.
Oui.
Alors, le grand bazar, c'est une histoire de famille formidable? Non, ça c'était sur TF1. C'est une famille recomposée, une tribu. Ça commence sur un choix qui fâche. Comment appeler le nouveau-né tout neuf qui vous arrive à vous qui jouez Nicolas et à votre compagne Samia? Différence culturelle au programme. Les parents de Samia sont algériens, les parents de Nicolas post-68 ans, mais c'est pas du tout plus grave que ça. Et puis surtout, Nico et Samia sont à la tête d'une famille hyper recomposée avec plein de frères, des ex, des copains qui donnent leur avis sur tout et font n'importe quoi. On récapitule, bande-annonce.
Samia et Nicolas vivent une histoire parfaite.
Qu'est-ce que vous faites?
Enfin, presque.
Bah, rien.
Rien, ma chérie.
Entre leurs ex.
Moi, je vais appeler ton père cet après-midi, tu vas voir.
Quoi?
Ah bah super, parce qu'en plus, tu préfères te disputer avec elle plutôt que te disputer avec moi.
Tu sais parfaitement que je préfère me disputer avec toi.
Tu le sais parfaitement.
Leur nouvelle vie.
Bah alors, il s'appelle comment, ce bébé?
On sait pas encore, là.
On sait pas encore, mais il est né, là.
Leurs enfants.
Rassurez-moi, vous êtes contente quand même d'avoir un petit frère, hein?
Ouais. Normal, quoi.
Et leurs beaux-parents.
On va circoncire nos âmes.
Oh. Eh bah plutôt crever.
Eh bah, il va falloir vous tuer, ça c'est sûr.
C'est le grand bazar.
Elle vous a raconté quoi, Baya Kassmi, pour vous faire signer, pour vous présenter votre rôle, Grégory Montel?
Elle m'a envoyé son scénario, c'est déjà pas mal, parce que j'ai eu affaire... J'ai cette chance-là en ce moment, je reçois pas mal de scénarios de comédie.
Non,
mais
ouais.
Mais oui, mais même voilà, de télé, comme surtout de cinéma, et donc j'ai cette chance-là. Et Baya, elle m'a envoyé ce scénario et immédiatement, bon, j'ai adoré la première scène. En fait, la première scène de cette série est redoutable d'efficacité. Je me demande, c'est pas une des scènes de départ les plus réussies des séries que j'ai vues. Voilà, je vais pas vous la dévoiler
ouais,
ici.
On va pas, j'allais vous le demander,
mais je trouve qu'elle est redoutable, elle est drôle, elle est fine, elle est surprenante et puis techniquement c'était chouette à faire. Donc j'ai lu cette série et j'étais conquis par la première scène.
Techniquement, ça veut dire quoi? Techniquement,
cette première scène, c'est un vrai plan séquence un peu compliqué. Il a fallu répéter avec des gestes de sage-femme qu'il fallait que je connaisse, que je répète.
Vous étiez documenté. J'imagine que vous êtes allé sur place.
Hein. Oui, bien sûr.
Sur le terrain.
Bien sûr.
Comme
un Américain, pas beaucoup, mais j'ai la chance d'avoir une de mes amies d'enfance qui est sage-femme à Digne-les-Bains, qui est ma ville natale, et donc je suis allé faire un saut là-bas. Et puis j'ai deux enfants, j'ai manipulé du nouveau-né.
Oui, mais vous en avez jamais accouché quand même?
Non, pas de souvenirs. Non, j'ai pas accouché d'enfant. Non, j'ai participé à deux reprises. C'était très beau de voir mes enfants.
Et justement, quels sont les gestes qui vous ont non pas le plus posé de problème, mais qui vous ont le plus intéressé?
C'est amusant. Mentale. Oui, c'est amusant. C'est-à-dire que je sais pas si vous avez remarqué, les sages-femmes, qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs, ils manipulent les bébés avec finalement assez peu de précautions. C'est-à-dire qu'ils les manipulent comme ça, ils les prennent par un pied, etc. Ils les testent. Testent leur motricité, donc ça veut dire qu'ils les mettent à mal un petit peu. Et moi, on est parti à Bruxelles, parce qu'il n'y a qu'à Bruxelles, il n'y a qu'en Belgique qu'on peut filmer des bébés qui viennent de naître.
C'était la même chose pour Pupi, le film Pupi. Ils avaient tourné aussi à Bruxelles.
Voilà, ma chère Jeanne. Et donc, c'est là-bas qu'on va tourner. Donc,
on peut manipuler des bébés à Bruxelles.
Voilà.
Mais pas en France.
Mais pas en France. En France, c'est à partir d'un mois, deux mois. Je n'exprimerai aucun. C'est la législation, c'est comme ça. Mais voilà, c'était finalement le plus flippant à faire, c'est-à-dire à prendre ces petits bébés, à les manipuler, en même temps leur montrer qu'on a de l'affection pour eux, tout en n'ayant aucune crainte et en mettant une espèce de distance comme ça.
Je m'adresse au père de famille. Vous laisseriez votre enfant se faire manipuler?
Non, c'est absolument hors de question.
C'est là où on voit que vous n'êtes pas belge. Le sujet est cher à Baya Kasmi, famille recomposée, elle-même père algérien, mère française, une enfance au Mirail. Et vous, en quoi ça vous concerne, ce qui est raconté dans la série, Grégory Montel?
Moi, ça me concerne, je dirais, d'un point de vue sociétal, parce que moi, je n'ai jamais été concerné par ce genre de famille-là. J'ai une famille qui est 100% provençale, avec 150 km de distance sur les 500 dernières années. Ça va que je manque un peu de iode, mais ça va que je... Enfin, je parle à peu près normalement, mais je suis une vraie famille provençale, donc en termes de mixage des cultures, c'est pas vraiment ça. Mes parents sont enfants uniques, ils sont pas divorcés, je suis pas divorcé non plus, je me sens extrêmement normal.
Ah, ça, je peux imaginer.
Mais ouais. Voilà, je me sens très. Mais c'est le drame de ma carrière, je me sens beaucoup trop normal, je bois pas assez, je fume pas assez, je me drogue pas assez, c'est une catastrophe.
Non, enfin, mais sans rire, ça vous a causé problème? Cette normalité, en effet.
Cette normalité, oui. Oui, parce qu'autour de moi, j'ai affaire à plein de gens, comment dirais-je, extraordinaires, qui font feu de tout bois, que j'admire comme ça. Et moi, j'ai trop peur des lendemains, les maux de tête, la perte de contrôle. Alors, du coup, j'essaie d'être fou un peu différemment, mais je sais pas trop comment. Alors, je fais des choses à droite, à gauche. Mais sur cette histoire de famille, oui, ça me concerne parce que je vois plein de gens autour de moi qui sont très heureux de voir leur famille recomposée. J'en discutais, bon après je veux, mais dans la série 10%, je suis très ami avec certains acteurs et une actrice en particulier me parle souvent de sa famille recomposée complètement folle. Et elle me dit à quel point c'est génial, à quel point ça crime, à quel point ça sème, à quel point on s'est choisi aussi dans cette famille. Et ça, je trouve ça formidable.
Live, c'était signé Vampire Weekend sur France Inter en concert au Zénith de Paris le 16 novembre prochain. Une programmation début de semaine, pas du tout week-end pour Jean-Baptiste Audibert.
Le nouveau rendez-vous.
Rendez-vous.
Laurent Goumard.
Toujours le grand bazar avec vous, Grégory Montel. Sur M6, ça commence demain. Prix d'interprétation à Cérimania pour vous. Et puis pendant la chanson, vous me disiez que ça y est, un autre prix d'interprétation, où ça?
Non, mais j'étais à Monte Carlo le week-end dernier pour recevoir un prix d'interprétation du Festival International de la Télévision. Et c'était extraordinaire parce que du coup je ne savais pas que j'allais avoir le prix. Et en fait le président de la soirée c'était Michael Douglas. La jeune femme qui a eu le prix d'interprétation c'est Patricia Arquette.
Et donc Patricia Arquette pour les femmes et pour les hommes c'est Grégory Montel.
Alors, je leur ai dit il y a un problème, qu'est-ce qui s'est passé?
Non, ça va.
Non, ils ont vu un film qui s'appelle La soif de vivre qui est un très beau film de Lorenzo Gabriel et que j'avais tourné avec Claire Kame qui est un sujet assez dramatique. Et ils ont adoré. J'ai ri, du coup je me suis retrouvé là. C'est génial. Là.
Alors, Michael Douglas.
Ben, je lui ai serré la main, on a discuté. Il m'a même touché l'épaule comme ça en disant bravo.
Mais de quoi vous avez discuté?
On s'est dit bravo, félicitations. Je lui ai dit que pour moi c'était un héros. Il m'a dit que ça le faisait rire. Voilà.
Il a quel âge maintenant?
Je ne sais pas. Je dirais qu'il n'est pas loin. Je pense que c'est un homme qui a 76, 77.
C'est ça. Mais il ne l'est fait pas, c'est ça?
Non, mais c'est surtout son papa qui l'est fait, toujours vivant, quoi.
Oui, tout à fait.
Son père, il a 101, je crois.
En parlant de ça, quel acteur vouliez-vous être, vous, au départ?
Jean-Paul Belmondo.
Alors que vous vous destiniez à être avocat?
Oui. Et oui, je ne voulais pas être Maître Dupont-Moretti comme acteur, je voulais être avocat. Je voulais être avocat parce que j'ai fait du droit et que c'est un métier qui me plaisait beaucoup. Mais il y a 13 ans, il y a une espèce de truc étrange qui s'est passé. Je suis monté sur scène et
dans le cadre du collège, du lycée.
Absolument, du collège, du lycée. Et puis du coup,
ça commence là alors.
Ça commence complètement là. Ça commence avec le mariage de Figaro.
Et vous étiez qui dedans?
J'étais Chérubin, qui habituellement est joué par une petite fille.
Exactement,
une jeune femme, pardon.
Ouais.
Et en fait, la jeune femme s'était blessée, et du coup, il fallait la remplacer. Donc, je m'étais proposé de remplacer, et donc j'ai fait mon chérubin. Et c'est un souvenir qui est resté marqué, que j'ai bien enfoui pour effrayer personne dans la famille. J'ai fait mes études bien sagement, et puis quand après mes études, j'ai fui. J'ai fui le sud, j'ai fui Aix-en-Provence, voilà.
Vous êtes monté à Paris, comme on dit?
C'est exactement ce qu'on dit. Je suis monté à Paris. J'ai fait comme tout le monde. Je suis inscrit au cours Florent.
Et alors, c'était bien le cours Florent pour vous?
C'était vachement bien.
C'était une bonne expérience, pas pour tout le monde. Hein.
Non, je sais. Non, c'était vachement bien parce que j'ai appris à comprendre que c'était pas gagné, parce qu'on était, je pense, 1500 élèves déjà, à cette époque-là. Et j'ai compris que là, il fallait trouver une singularité, arriver à que le métier d'acteur, c'était d'abord apprendre son texte, ce qui est pas le plus simple, et deux, c'est se singulariser,
Et qu'est-ce qui vous différenciait alors?
Au tout début, c'était un peu mon côté basalpin, mon côté petit accent. Finalement un peu jovial qui m'a valu des problèmes. Je pense que j'ai pas eu ma classe libre pour cette raison-là, parce que j'avais un côté comédien de province qui était pas possible. Et puis
à cause de l'accent.
Ouais, peut-être. Et puis pas forcément un physique de jeune premier, des choses comme ça. Parce que le cours Florence, il y a quand même un petit côté un peu comme ça, lisse, peut-être un peu parfois. Mais j'ai eu un prof génial. Moi, j'ai travaillé avec un ami, Xavier Florent, qui est devenu un ami, avec Monsieur Guibert, j'ai des profs super, quoi. Puis j'avais pas la possibilité d'aller au conservatoire parce que j'étais trop vieux, donc la question ne se posait pas. Il fallait passer par là.
Vous avez eu peur que ça ne marche pas?
Oui, j'ai eu peur que ça ne marche pas. Mais je me suis toujours dit, au pire, je reprends l'école du barreau, que j'avais passé. Et je me suis dit, il faut faire la tentative. Et puis après, je me suis laissé embarquer grâce au théâtre et grâce aux amitiés, quoi.
Oui, parce que le théâtre, c'est par là où tout commence. Oui. Et c'est là où Dominique Besnéen va vous trouver.
Il vient au théâtre des Déchargeurs. C'était assez amusant. C'est un copain à moi qui avait toujours sur lui le flyer et puis qui partait vers Vire ou Flers, sa ville natale en Normandie. Et puis il y avait Besnéen dans le train. Il lui a donné un flyer. Et la grande chance qu'on a eue, c'était que le flyer, c'était quatre garçons torse nus dans une cellule de prison. Donc Dominique s'est dit oh, ça c'est pour moi. Ça va falloir que j'aille faire un saut. Il faudra que j'aille faire un saut au théâtre des Déchargeurs. Sauf que la pièce était rudement bien. Elle était vachement bien et puis il nous a attendu pour discuter. Et ça a immédiatement collé avec Dominique et je crois pouvoir dire qu'on est devenus des amis proches. Voilà, on s'appelle tout le temps.
Jusqu'à ce qu'il vous fasse intervenir dans 10%. Oui. Vous êtes acteur de théâtre, ça on le sait. Acteur de série, ça on le sait bien aussi. Acteur de cinéma, on vous a vu récemment, notamment dans Les Chatouilles. C'est quoi, au niveau technique peut-être, la différence entre être acteur de série et être acteur de cinéma? Parce qu'on a beau nous dire, oui, c'est un peu la même chose. Pas du tout, en fait.
Oui. Alors c'est, moi je dirais que
Grégory
c'est
Montel.
Oui, alors oui, alors je moi je pense que c'est exactement le même métier.
Oui, ça oui.
Je pense que c'est exactement le même métier. Je dirais que il y a c'est le rythme qui diffère. Alors le rythme aussi bien dans le jeu que dans le rythme du travail, c'est-à-dire que on à la télévision, on doit travailler vite. Mmh. On doit travailler vite, on doit travailler efficacement. Surtout dans ce qui est de l'ordre de la comédie, hein, que ce soit
10%
ou le grand bazar, on est vraiment dans la comédie pure. Donc ça veut dire qu'il faut de l'effet, faut que ça marche, faut que ça. Alors que dans le cinéma, on a un peu plus le temps de chercher. Dans le cinéma, on va davantage chercher. Peut-être que aussi, on a un peu plus de place pour non pas l'improvisation, mais cette idée de recherche. Voilà.
Alors justement, c'est la question que je me posais. Est-ce qu'il y a de l'improvisation permise, par exemple, quand on travaille avec Baye et Kasmi?
Alors Baya, elle va vous dire oui, c'est possible, mais en vérité, je crois qu'elle tient beaucoup à son écriture parce que c'est comme je vous le disais, c'est hyper rythmé. Donc ce qu'elle a écrit, c'est très rythmé parce que Baya, c'est une actrice aussi et elle a ce sens-là de la
du tempo
et que ça se ressent très très fort à l'écriture.
Et vous avez pu intervenir vous quand même sur l'écriture, la réécriture peut-être de certaines parties parce que c'est vous quand même qui prononcez
les dialogues. Figurez-vous que non. Parce que moi, ça me convenait parfaitement comme ça. Ça me convenait parfaitement comme ça. J'avais vraiment envie de. Puis c'est. Moi, j'ai envie de me glisser dans la peau d'un personnage. Et si je commence à faire réécrire ou à discuter, j'ai peur que une fois de plus, que ça se rapproche trop de moi. Et là, il m'intéresse bien ce Nicolas parce que je trouve assez intéressant dans son rythme. C'est quelqu'un qui est assez posé, qui souffre bien sûr de cette charge mentale qu'il a dans cette famille folle comme ça où tout va très très vite. Mais lui, il est là pour ralentir. Il est là pour poser les choses. Et ça m'intéressait. C'est pas comme ça que j'ai l'habitude de jouer. J'aime bien jouer avec beaucoup plus de peut-être même d'emphase ou quoi que ce soit. Là, c'est un garçon qui pose beaucoup les choses et je m'en suis rendu compte en fait que j'avais joué comme ça au moment où j'ai vu la série. Mais je pense que c'est étrange. Enfin,
vous avez refusé beaucoup de séries après 10%?
Quelques-unes.
Des regrets ou vraiment vous êtes dit j'ai bien fait?
Non, aucun regret. Aucun regret. Aucun regret, et parce que ça m'aurait pas permis de faire celle-ci. En plus, je pense que je serais pas retourné à la télévision pour 3 séries. Alors que là, et puis j'ai rencontré Baya, j'ai rencontré Elias Salem, j'ai rencontré Nelly Arzoun.
Ah bah Baya Kasmi, c'est un univers à elle toute seule.
Bah oui. Ah bah c'est un univers à elle toute seule. Et puis c'est en plus c'est chouette parce que c'est un monde qui est tellement différent du mien. Donc c'était très beau sur le tournage parce que ça s'est à la fois bien passé et en même temps on a appris à se comprendre. Il y a eu parfois des petits heurts entre nous du fait de comme ça, c'était culturel, c'est-à-dire que
c'est-à-dire par exemple
ben non mais par exemple moi je peux le dire, ouais. je suis un gros colérique, moi je suis quelqu'un qui
on vous imagine pas du tout comme ça.
Non mais c'est terrible. Alors c'est comme ça que j'essaie d'avancer, j'avance parfois en déclenchant un conflit, c'est ma façon de régler un problème. Je déclenche un conflit, je n'arrive pas à le régler s'il se règle comme ça calmement. Et un jour j'ai déclenché un conflit comme ça sur le tournage parce que j'étais mécontent de moi et donc je me suis mis en colère après moi de façon un peu outrancière. Et là stop, Baya elle a tout arrêté. Il y avait les enfants qui étaient sur le tournage, elle m'a dit Greg, je peux pas là, c'est pas possible, c'est trop violent pour moi. Je lui ai dit mais je suis désolé, pardon. Et je me suis rendu compte que cette façon-là, ça m'est déjà arrivé, et généralement ça déclenchait soit des rires, soit une compréhension, soit. Mmh. Et là, en fait, Baya, la violence, c'était pas possible. J'ai compris que là, la violence pour Baya, mais comment dirais-je la violence, la violence,
oui,
comme
oui,
ça,
oui.
L'affrontement, cet éclat de voix pour Baya, c'était pas possible. Ça pouvait pas tenir. Ça lui rappelait probablement trop de mauvais souvenirs. Et là, pendant une semaine, Baya et moi, on a appris à se reconquérir. On est allé boire un verre tous les deux. On s'est parlé. Et puis c'est reparti. Mais c'est passionnant, ça. C'est passionnant. Et donc, je me suis rendu
Grégory
compte.
Grégory Montel qui va au clash. Ah, ça, je m'attendais pas du tout à ça.
Mais je vais au clash envers moi-même, hein. Je me rappelle très très bien. C'était un vrai geste d'humeur. Et ben voilà, j'ai 40 ans et j'ai appris que les gestes d'humeur, ben parfois, ça ne fait pas rire les gens.
Le Grand Bazar débarque demain sur M6. Vous êtes doublement récompensé. Donc, pas du tout un homme en colère.
Non, ah non, bah alors en ce moment, je suis même très zen.
Grégory Montel dans le énervé. Allez, on prend un peu d'avance. En septembre, va sortir l'album posthume de Rachita, un an après sa disparition. C'est un disque qu'on annonce festif et militant. La preuve par
Je suis africain.
Je suis africain, africain du nord au sud. Je suis africain, dedans comme dehors. Je suis africain, je n'ai pas le rythme dans la peau. Je suis africain, un albinos afro.
Je suis africain, une déclaration de Rachida qui clôt cette première partie du Énervé, car oui, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 minutes avec ça.
Un référendum sur les aéroports de Paris. Un référendum pour ne pas brader ce trésor à Vinci.
Aéroport de Paris, c'est du vol. Le rendez-vous est pris. Alors à tout de suite.